On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque soir pour votre émission, l'émission où vous avez la parole, où vous venez nous raconter vos histoires, votre histoire. Et ce soir dans On se dit tout, on parle de bandes dessinées avec vous qui en lisez depuis toujours ou qui l'avez découverte un petit peu sur le tard. La BD a changé, elle a évolué, elle s'est adaptée, elle a de nouveaux publics, de nouvelles façons de lire. Les histoires, les thèmes aussi ont évolué et on s'est dit que ce serait pas mal d'ouvrir un petit peu vos meilleures BD, celles que vous avez depuis longtemps, qui font partie un peu de votre patrimoine. Celles que vous aimez d'aujourd'hui, hein, les plus contemporaines, on va dire, et puis tout ce que vous aimez, vos découvertes, votre histoire à vous, vos souvenirs de BD, peut-être aussi que vous êtes auteur, illustrateur, venez nous rejoindre et nous en parler jusqu'à 22h sur France Bleu au 0810 055 056. Notre grand témoin ce soir, c'est Benoît Mouchard, en charge de la BD chez Casterman et ancien du festival d'Angoulême. Bonsoir Benoît Mouchard.
Bonsoir Vanessa.
Comment va la BD? Est-ce qu'elle se porte bien dans le marché du livre aujourd'hui?
Alors le marché du livre depuis le début de l'année est en baisse et la bande dessinée est à plus 5%, notamment grâce à la sortie d'une version colorisée de Tintin au pays des Soviets qui a vraiment porté le marché. De manière plus globale, le marché de la bande dessinée est assez stable, mais il y a un phénomène assez intéressant, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, il paraissait entre à peu près 600 nouveautés par an. Aujourd'hui, il en paraît plus de 5000.
Ah oui.
Et les ventes, il y a quelques années, étaient de 30 millions par an. Donc, quand il y avait 600 nouveautés, il y avait 30 millions d'exemplaires vendus par an. Et maintenant, avec 5000 nouveautés, on est à 39 millions. Donc, vous voyez qu'il y a un petit souci.
Oui.
Et les principales victimes en sont les auteurs et les éditeurs. Les auteurs, évidemment, parce que la vente moyenne a baissé et que beaucoup d'auteurs, ça pourra être une question peut-être d'un auditeur, les auteurs sont rémunérés en avance sur droit, donc sur une somme qu'ils sont censés toucher et récupérer à partir de... d'un certain seuil de vente. Or, en fait, beaucoup d'auteurs aujourd'hui n'atteignent pas ce seuil de vente et donc ne touchent rien d'autre que l'avance sur droit. Quand ils ont une bonne avance sur droit, ça va, c'est pas toujours le cas.
Vous nous parliez de Tintin, ça veut dire que les classiques sont toujours là parmi ces 5000 nouveautés par an. Il y a les grands classiques, Tintin,
oui, Lucky Luke, qui vit différentes formes maintenant. Astérix, il y aura un Astérix à la fin de l'année. Il y a un nouveau Corto Maltese qui sortira aussi à la rentrée. Un nouveau Blake et Mortimer. Tardi, Bilal, et puis plein de nouveaux. L'un des gros succès de ces dernières années, c'est un auteur qui s'appelle Riyad Satouf, qui raconte sa jeunesse en
avec
Syrie.
Avec l'Arabe du futur. Hein.
Avec l'Arabe du futur, qui est vraiment un énorme carton. Et personnellement, je m'en réjouis, puisque lorsque j'étais directeur artistique du Festival d'Angoulême, j'ai le souvenir qu'un éditeur, que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra s'il nous écoute, m'avait annoncé qu'il était une honte que Riyad reçoive le prix du meilleur album, c'était il y a une petite dizaine d'années, parce qu'il resterait toujours underground. Et aujourd'hui, avec les ventes qui sont les siennes, c'est assez
drôle. Un des plus gros vendeurs aujourd'hui en France. Hein. On parle de BD. Vous l'avez peut-être compris si vous nous rejoignez à l'instant sur France Bleu, la BD que vous aimez, celle de votre enfance, celle d'aujourd'hui. S'il y a des auteurs, des illustrateurs, si vous voulez parler de la place des femmes dans la bande dessinée, eh bien venez nous rejoindre. C'est pas souvent qu'il y a 2 heures d'émission radio sur la BD et c'est ce soir sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
La bande dessinée, c'est le sujet dont se dit tout ce soir sur France Bleu. La BD que vous connaissez sur le bout des doigts, que vous adorez, que vous dévorez. Chez vous d'ailleurs, c'est bien simple, c'est plus une maison, c'est une BDTech. Des BD, des mangas, des comics, des vieux titres, des classiques, des tout récents. Parlez-nous de votre passion pour la bande dessinée, si vous la lisez, si vous êtes dessinateur, auteur. Et puis on parle aussi de plus en plus des femmes dans la BD. C'est peut-être le moment de nous rejoindre et de faire entendre votre voix. 0810 055 056, c'est Benoît Mouchard de chez Casterman qui est notre grand témoin. Et on va démarrer cette émission avec Roland en Bretagne. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Ça va bien, Roland?
Ça va bien, oui, oui.
Alors vous, c'est Achille Talon dont vous voulez nous parler.
Ah, Achille Talon, oui, oui, c'est 30 ans de ma vie, Achille Talon. Hein. C'est,
ah ouais, quand même.
C'était Greg qui écrivait, qui, c'est à chaque fois, il y avait, ça a toujours été un enchantement de, au début, c'était un peu les deux pages, et puis après, il y a eu les grandes histoires, et c'est vrai que, l'art du jeu de mots, du verbeux, du volubile, et en même temps, c'est très proche, puisque ça, à chaque fois, ça se passe un peu dans les petites villes. C'est juste un monsieur tranquille, quoi.
Et pourquoi vous en parlez au passé d'Achille Talon? Il est plus dans votre vie aujourd'hui.
C'est-à-dire, je me suis arrêté, j'ai essayé de lire après quand ça a été repris par un nouveau dessinateur, et puis j'ai pas retrouvé la même fibre.
C'est vrai.
J'ai pas retrouvé les mêmes histoires, j'ai pas retrouvé le même dessin, comment dire.
Là, c'est la grande question pour une série qui dure sur le temps. Benoît, comment on fait pour garder, on va dire, l'idée de départ, celle qui a plu?
C'est pas toujours évident, parce que souvent les personnages sont vraiment très liés à leurs auteurs, évidemment, et c'était le cas d'Achille Talon, qui a été créé par Greg, qui était un dialoguiste extraordinaire, vraiment, qui effectivement maniait le verbe comme un écrivain. Il y avait du Desproges chez Greg, il y avait des envolées lyriques, donc son personnage qui est un bourgeois prétentieux qui se chamaille toujours avec son voisin le funeste, et c'est vrai qu'il y a une musique particulière des dialogues d'Achille Talon qui est pas forcément évidente à retrouver. Et de manière plus générale, reprendre un personnage peut être assez périlleux. Il y a plusieurs options. Il y a soit la tentation d'imiter le style du créateur. C'est le cas, par exemple, d'une série comme Blake et Mortimer. Ou bien il y a d'autres options, comme par exemple là plus récemment cette année, enfin l'année dernière, sur la série Lucky Luke qui est publiée chez Dargo. Il y a eu une version réaliste de Lucky Luke qui s'appelle L'homme qui tue Lucky Luke par Mathieu Bonhomme, qui est vraiment un excellent livre. Et plus récemment, j'ai oublié le titre, mais il y a Jolly Jumper dedans, d'un dessinateur très drôle qui s'appelle Bouzard. Et en fait, ces deux auteurs, ils ont pris les personnages et ils ont fait leur interprétation.
Mais quand vous dites qu'il y a un nouveau Tintin qui sort, par exemple, Hergé
n'est plus
là. Il n'y
aura pas de nouveau Tintin.
Non, vous n'avez pas parlé d'un nouveau Tintin ?
C'est un Tintin d'Hergé qui a été mis en couleur, qui n'était jamais parlé en couleur, mais ce n'est pas un nouveau Tintin.
Il n'y aura jamais de nouveau Tintin.
Non, parce que donc la seconde épouse d'Hergé, Fanny Rodwell, qui est l'ayant droit, a émis le souhait que, effectivement, l'œuvre d'Hergé ne lui survive pas. Et c'est une décision vraiment respectable, mais qui, du coup, pose évidemment des questions de survie de l'œuvre, parce que une série qui... Parce que c'est un peu, la bande dessinée est un peu héritière du feuilleton et des personnages populaires, un peu du roman d'aventure ou de la comédie. Et il faut entretenir, un peu comme une série télé,
normal.
Il faut un nouvel épisode pour... Voilà. Mais Tintin est un peu un phénomène, mais il y a eu des grandes expositions, notamment au Grand Palais. Il y a une actualité autour de Tintin.
Roland, quand vous parlez d'Achille Talon, on sent bien sûr toute cette passion. Il y a eu que Achille Talon dans votre vie avec la BD, ou il y en a eu d'autres qui sont passés?
Il y a un petit peu Astérix, mais alors franchement, je ne suis pas du tout Tintin. Il n'y a qu'un seul album de Tintin que j'adore, c'est Tintin au Tibet, et je crois que c'est à peu près le seul.
Alors, est-ce que vous saviez, Roland, que Greg a écrit un album de Tintin qu'Hergé a en partie dessiné, mais qui n'est jamais paru?
Ah, ça, je ne savais pas non plus.
Il s'appelait Le Thermo Zéro, dont il existe une petite dizaine de planches crayonnées, parce que Greg était l'auteur d'Achille Talon, mais c'était un grand... J'ai écrit un livre sur Greg, c'est le hasard, mais qui est paru il y a quelques années chez Dargo, que je vous recommande, Roland, qui s'appelle Michel Greg, Dialogue sans bulle, et où c'est un recueil d'entretien, une monographie avec Greg, et donc il a écrit cette histoire qu'Hergé a interrompue, mais il a aussi adapté pour les dessins animés beaucoup d'albums, donc pour la télévision et le cinéma, et notamment une histoire que que vos enfants ont peut-être vu, ou que les auditeurs ont peut-être vu, qui s'appelle Tintin et le Locorequin, et qui a été aussi publié sous forme d'album et qui continue à se vendre.
Roland, merci d'avoir ouvert cette émission, d'être venu nous parler d'Achille Talon. Et malheureusement, l'histoire s'est arrêtée là pour vous. Hein, vous n'avez pas suivi après. On parle de BD ce soir dans On se dit tout. La bande dessinée que vous aimez, vos souvenirs de BD, vos envies aussi. Comment vous faites pour choisir parmi ces 5000 nouveaux titres qui sortent tous les ans? Est-ce que vous prenez un peu au hasard? Est-ce que vous lisez les critiques? Est-ce que vous vous déplacez sur les salons? Est-ce que vous rencontrez les auteurs aussi? On pourra parler des séances de dédicaces, des moments d'échange. 0810 055 056, venez nous rejoindre et venez en parler de cette bande dessinée jusqu'à 22h.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on parle de BD ce soir dans On se dit tout, la bande dessinée et vous, votre rapport à la BD, votre passion, votre amour démesuré pour la BD, le budget que vous passez dans la BD, l'incompréhension parfois peut-être de votre conjoint, ou au contraire, c'est une passion que vous partagez tous les deux. Est-ce que vous avez changé en même temps que la BD a changé? changé, c'est-à-dire que vos goûts peut-être ont évolué, ou alors vous êtes toujours fidèle à une même série, un même auteur, un personnage. 0810 055 0 56, c'est très large hein, ce soir, à partir du moment où ça parle de BD, venez nous rejoindre jusqu'à 22h en compagnie de Benoît Mouchard de chez Casterman, qui est notre grand témoin. Et Eric est avec nous maintenant depuis Épinal. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Vous allez bien Eric?
Ah ben nickel, j'ai passé une super journée.
Ah bah tant mieux.
Et puis en écoutant France Bleu entre autres, j'étais un peu plus occupé, c'était à Daïla et donc j'ai pas pu vous écouter complètement, mais par contre je suis régulièrement. Et donc là je voulais donc témoigner et puis passer un bonsoir donc à l'éditeur. Et donc moi je voulais témoigner simplement pour dire que j'ai pas hésité à investir beaucoup dans la bande dessinée pour mon fils qui maintenant est devenu professeur de latin et grec et j'en suis très fier.
Non mais c'est bien ça parce qu'il y a toujours une image genre oh là là oh, c'est horrible mon enfant ne lit pas de livres, il lit que des BD. La BD c'est du livre, hein, faut pas l'oublier.
C'est de la
pas
lecture
l'oublier.
Absolument et il y a eu des études faites notamment par le ministère de la Culture qui démontrent qu'un lecteur de bande dessinée c'est un lecteur. Je veux dire par là que il ne lit fatalement pas que des bandes dessinées. Moi, j'ai fait des études de lettres à la Sorbonne, je lisais des bandes dessinées et ça m'a pas empêché. Je suis pas surpris que monsieur, enfin, qu'Éric ait effectivement un fils qui soit devenu prof de français, parce que c'est une idée reçue qui, je crois, a quand même reculé.
Oui, ça
hein,
va
mais,
mieux quand même.
Mais les textes de bandes dessinées peuvent être,
c'est plus
ne le sont
paf,
pas toujours, mais
oh
peuvent être très riches.
Voilà, ah, c'est pas
y a
que
pas
début,
que des onomatopées.
Et Éric, vous lui achetiez quoi, votre fils, comme BD à l'époque?
Alors, Tintin, les Lucky Luke, les Astérix, les Blackie et Mortimer, les Tuniques Bleues, j'ai déjà dit, je crois.
Très bande dessinée franco-belge, alors.
Les Schtroumpfs, les Marsupilami.
J'entends votre femme derrière qui se rappelle en même temps.
Ouais, parce qu'on l'oublie. Je me suis fait piquer, enfin, le gamin s'est fait piquer, mais une bande dessinée qui était tiré à 700 exemplaires et qui retraçait le début de la création de la ville de Nancy, avec en conclusion l'hôpital de Bravois qui a été construit par Monsieur Rossineau. Voilà, on nous l'a piqué. Enfin, surtout aux gamins, quoi. Ça, c'est dommage. Mais ça, c'est l'anecdote, mais il a eu le temps de le lire, le gamin. Et puis,
bon, ça va, c'est l'essentiel. Éric, je vous coupe deux secondes parce que, Benoît, vous nous parlez de la BD franco-belge. C'est vraiment encore la Belgique qui, principalement, a les plus grands auteurs aujourd'hui?
Moins. La France s'est bien
longtemps
rattrapée. Le Japon et les États-Unis sont évidemment aussi des pays très importants. L'Amérique du Sud avec l'Argentine, l'Italie. En fait, on croit que la bande dessinée est née en Belgique parce que, effectivement, beaucoup de nos héros, les héros que Eric vient de citer, Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, le Marsupilami, tous ces héros sont belges, sont nés en Belgique. Mais ça tient en fait à plusieurs raisons. C'est que peut-être la bande dessinée belge, qui avait des éditeurs comme Le Lombard, comme Dupuis, comme Casterman, a eu une politique très tôt d'album. Donc il y a une transmission. C'est vrai que la bande dessinée est née dans les journaux et que le fait qu'elle soit recueillie sous forme de livres et d'albums par ces éditeurs belges, ce qui n'était pas le cas des bandes dessinées qui étaient publiées par PIF, par exemple, PIF Gadget, il y avait des recueils, mais pas beaucoup, et ça n'a jamais vraiment marché. Alors là, il y a une transmission, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, un grand-père peut donner à son... Enfin, un père peut donner à son fils, puis plus tard à son petit-fils, etc.
C'est BD, oui.
Voilà.
D'où l'importance de les garder.
Il y a une vraie transmission.
Et à l'école, est-ce que la BD est entrée dans les écoles? Est-ce qu'aujourd'hui, les instituts, les profs, ils sont sensibles aussi, puisqu'on parlait du goût de la lecture.
Oui, parce que la bande dessinée, bon, évidemment, il y a du texte, mais c'est aussi apprendre à lire l'image. On est complètement dans une civilisation où l'image prédomine, et apprendre, par exemple, la composition. Pourquoi est-ce qu'un avant-plan présente tel ou tel élément de décor ou tel personnage? Qu'est-ce que l'image raconte? Ça peut aider quand même à mieux décrypter, par exemple, ce qu'on voit sur un écran, oui.
Merci beaucoup Eric de nous avoir appelé. Belle soirée à vous et on file en Corrèze chez Marion. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Eh ben oui, il n'y a pas qu'en Belgique et en France qu'on fait de la BD. Vous avez découvert une BD canadienne, c'est ça?
Alors... C'est ça. Alors bien que j'habitais un petit peu en Belgique, mais celle-là elle est canadienne et elle s'appelle Magasin Général.
Alors je vais vous contredire, mais pas méchamment. C'est une BD qui se passe au Québec, mais les deux auteurs sont en fait français. L'un des deux a un accent du sud-ouest très prononcé, c'est Jean-Louis Tripp, et qui co-écrit et co-dessine avec Régis Loisel. Et c'est une bande dessinée, je vous remercie Marion, vous avez bon goût, qui est chez Casterman.
Ah, très bien. Qu'est-ce qui vous a plu, Marion, dans cette BD ?
Eh ben alors en fait je l'ai découvert grâce à une collègue, figurez-vous, j'étais malade. Et pour pour passer un peu le temps, elle m'a laissé cette bande dessinée. Et j'ai jamais vu, une bande dessinée de ce style. Bon, j'ai lu bien sûr à Tintin, j'en ai lu plein d'autres, Astérix, Obélix, etc. Mais là, j'étais très émue. Parce qu'en fait, ça se passe avant la Première Guerre mondiale, donc début 20e, dans un petit village canadien. Le dessin déjà est magnifique. Et en plus, on suit vraiment la vie des personnages dans leur quotidien, donc comme à l'époque. On est vraiment, je trouve, immergé dans la vie de l'époque, avec les métiers de l'époque, la vie en communauté, les ragots, etc. Et je peux vous dire, j'ai jamais autant ri et pleuré à la fois en lisant une BD.
Ah, oh, c'est mignon ça.
Parce que, ouais, je pense que les personnages déjà sont très attachants et parlent, ça aborde tous les sujets de la vie. Donc, ouais, le début, par exemple, donc il y a 9 tomes. Moi, j'en ai vu 9, hein, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Donc, le premier tome, ben, ça commence, on suit une femme qui vient de perdre son mari. Mais voilà, on reste pas, c'est pas dans le pathos du tout. Hein, c'est vraiment la vie. Donc, il y a les naissances, les mariages. C'est très émouvant, en fait. C'est difficile à tout raconter, mais...
on pourrait dire, je ne sais pas si vous me contredirez Marion, mais qu'il y a un petit côté pagnol avec l'accent québécois, en fait, dans cette BD. Il y a vraiment ce côté humain et très tolérant aussi.
C'est vrai.
Très humaniste.
C'est vrai.
Et vous les avez tous lus, les 9 tomes, ou vous avez juste...
Ah, je les ai dévorés. Ah, je pouvais vous dire, on se les est passés entre collègues.
C'est génial, ça.
C'est tellement bien, on se les passe, et le langage est vraiment truculent. Alors, ça, c'est le mieux... Parce que, c'est vrai qu'ils disent que c'est adapté au français, enfin, pour que ça soit accessible à un lecteur français. Mais dans les faits, il y a quand même des expressions, mais un petit temps à saisir le sens. Mais c'est très marrant.
En fait, donc, Régis Loisel et Jean-Louis Tripp se sont installés à Montréal, il y a quelques années maintenant, et ils ont été, ils sont tombés en amour, comme les Québécois, des paysages, de la vie, de ce qu'ils percevaient, de ce qu'il y avait d'universel aussi dans ces villages perdus dans la nature, pas dans la campagne. Et ils ont réussi aussi dans leur langue à trouver un juste milieu entre effectivement un parler québécois avec des mots qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on peut quand même comprendre, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes québécois, donc c'est lisible pour un lecteur qui ne parle pas du tout ce dialecte, on peut dire.
Et Marion, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir d'autres bandes dessinées ? Vous étiez restée un peu sur les anciens titres, là vous découvrez complètement autre chose.
Oui, mais j'avais déjà vu, c'est vrai, d'autres bandes dessinées plus modernes, on va dire. Je cherche des noms, là, ça me vient pas en tête. Mais oui, j'aime beaucoup. Assis Troll de Troyes, par exemple, les choses comme ça.
Comment vous aviez découvert Magasin Général ?
C'est la collègue qui l'a prêté.
C'est la collègue,
vraiment, par hasard.
Ouais.
Voilà, elle est venue m'apporter ça, parce qu'elle l'a... Elle l'avait découvert dans une librairie spécialisée.
Mais elle-même, elle est fan de BD ou pas particulièrement ? C'est vraiment, elle a eu un intérêt pour ce livre, enfin cette série en particulier ?
Bon, ben je pense, si je me trompe pas, elle s'est fait conseiller par le vendeur. Donc c'est vraiment une
important,
petite librairie spécialisée en bande dessinée.
Il y en a plein, on a cette chance en France d'avoir encore des librairies spécialisées en bande dessinée.
On peut remercier la loi Langue, hein, que beaucoup de pays étrangers nous envient. C'est le prix unique du livre qui permet effectivement à des libraires d'être un peu partout dans toutes les villes de France. Et les libraires ont un rôle de prescription formidable. C'est vraiment eux qui sont des passeurs entre les lecteurs et les livres.
Merci beaucoup Marion d'être venue ce soir nous parler donc de cette BD Magasin Général. Et on continue d'en parler, de la bande dessinée, ce soir au 0810 055 056. On parlait des libraires, ben justement, venez nous rejoindre, on ne sait jamais. Des libraires, des fans de BD, des dessinateurs, des illustrateurs, vous êtes tous les bienvenus pour nous parler de votre bande dessinée, celle que vous aimez ou de vos bandes dessinées. Il y a peut-être la BD d'avant, la BD d'aujourd'hui. On parle également de romans graphiques aujourd'hui. Est-ce que les choses ont véritablement changé pour vous? Quel amateur de bande dessinée êtes-vous? C'est la question que je vous pose. Et puis si vous dites, oh, je sais pas si vraiment c'est le thème. Dites-vous bien, est-ce que ça parle de BD? Oui? Ah bah alors c'est le thème, mais il n'y a pas de souci. 2 heures d'émission autour de la BD. C'est sur France Bleu au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
BD classique, BD de reportage, roman graphique, comique, manga. Qu'est-ce que vous aimez dans la bande dessinée? Comment votre histoire d'amour a commencé d'ailleurs? Comment vous choisissez vos BD? Est-ce que vous faites les salons? Est-ce que vous demandez conseil à votre libraire préféré? Est-ce que vous gardez vos BD? Ou est-ce que vous les revendez? Question piège. Il paraît que c'est un sacrilège, on ne revend pas ses BD. Qui vous a ému en BD, vous a surpris? Bref, si vous êtes un fan de BD, rejoignez-nous au 0810 055 056. On a 2 heures pour en parler. Et c'est Benoît Mouchard qui est notre grand témoin en charge de la BD chez Casterman, ancien du Festival d'Angoulême également. Il connaît bien le sujet, la preuve, hein, depuis le début. Et on va accueillir Bertrand dans l'heure. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Vanessa, bonsoir Benoît.
Bonsoir Bertrand.
On va parler de Michel Vaillant, le célèbre pilote.
Et oui, en plus de ça, je suis commissaire de piste aux 24 heures du Mans, donc bah, c'était un grand honneur. J'ai rencontré Philippe Graton là-bas.
Le fils du créateur Jean Graton, de Michel Vaillant.
Oui.
Et vous êtes devenu... Bertrand, je vous coupe, mais si vous faites ce métier-là, c'est un peu grâce à Michel Vaillant ou pas?
Non, je suis grand fan d'automobile.
À la base, de toute façon.
Oui. Tout petit, ça m'a pris. Alors donc, et Michel Vaillant, je l'ai connu en 1979 à l'armée. Pour alors, passer mes soirées, j'achetais des BD.
La série existait depuis une vingtaine d'années. Donc, elle a été créée dans le journal Le Tintin à la fin des années 50. Ça a été une des premières séries qui mettait en scène des sportifs de haut niveau. Et il y avait un souci documentaire très fouillé pour. La représentation des courses et aussi des voitures, et il y avait aussi beaucoup d'intrigues familiales. Il y avait un côté Dallas, il y a toujours un côté Dallas dans Michel Vaillant.
Et Michel, j'arrête pas de dire Michel parce que je vois Michel Vaillant, Bertrand, pardon, je vous appelais Michel, ça va être plus simple.
C'est mon troisième prénom.
Ah ben voilà, vous en avez beaucoup des albums de Michel Vaillant?
Ah oui, j'ai pratiquement la collection complète de Jean, et puis j'en suis au troisième avec Philippe.
Avec le nouvel auteur.
Voilà, qui est co-scénariste. Ouais, donc vous devez avoir des albums qui sont dessinés par Marc Bourgne chez Dupuis.
Ah oui, les premiers. Bah, et les grands défis, tout ça.
Ouais, ça, c'est par Jean Graton, ouais.
Et alors,
qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, vous qui êtes fan d'automobile, c'est la mise en scène.
J'aime bien le dessin, les dessins sont très fins, c'est vraiment des vraies voitures, quoi. On n'a pas ça a pas l'attrait bande dessinée sur le côté automobile.
Ça tient la route, quoi.
Ah ouais, et j'ai même fait la collection des voitures miniatures qu'il y a eu en édition presse pendant un bout de temps, là. Il y a eu une édition presse il y a, on va dire, 3 ou bien maintenant 5 ans.
Et qu'est-ce que vous avez pensé du film?
Ah, j'allais poser la question. C'est signe qu'une BD marche bien quand elle est adaptée au cinéma.
J'adore le film.
C'est juste une parenthèse. L'un des premiers films de fiction qui est L'arroseur arrosé, on l'oublie, est une adaptation d'une bande dessinée.
Ah d'accord.
Qui était un gag. Donc c'est vraiment le cinéma et la bande dessinée sont très liés. Et vous avez aimé le film de Luc Besson, par Luc Besson.
Michel Vaillant, j'adore.
Qui est-ce qui joue le premier rôle? Je suis en train de le chercher d'ailleurs.
Alors là, je ne peux pas vous dire, car je vais avouer que je ne l'ai pas vu.
Bon, mais j'étais en train de le chercher, mais je ne trouve plus. C'est Sagamore Stevenin, je crois.
Ah, c'est possible.
Avec ses beaux yeux bleu vert, effectivement.
Voilà, c'est lui qui faisait Michel.
Bah oui, mais moi je préfère le Sagamore que Michel Vaillant, sur le papier, vous voyez.
Et il y a Steve Warson aussi, pardon.
Bertrand, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre héros de jeunesse, qui est toujours votre héros, Michel Vaillant. Donc, à très bientôt sur France Bleu, la bande dessinée. On continue d'en parler dans un instant, on va parler de manga avec Sophie dans les Bouches-du-Rhône.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu. avec Vanessa Lambert.
Et on parle de BD ce soir, la place qu'elle prend dans votre vie, le rôle qu'elle a joué peut-être aussi dans votre vie, vos auteurs préférés, vos séries fétiches, vos souvenirs de jeunesse. Mais on va essayer de ne pas rester scotché dans le passé parce que la BD a bien changé et peut-être que vous aussi avec, probablement. 0810 055 056, vous aimez la BD, vous êtes auteur, collectionneur, venez nous rejoindre jusqu'à 22h comme Sophie qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Et on va parler de manga avec vous et notamment d'une série qui s'appelle Death Note.
C'est ça.
Là, on avait Johnny avec quelque chose de Tennessee. On aurait pu mettre Noir c'est Noir hein, pour vous.
Oui.
C'est un peu ça. Racontez-nous déjà comment vous êtes arrivée à la bande dessinée, au manga d'ailleurs. Ça a commencé à quel âge? Vous avez 29 ans aujourd'hui.
En fait, le manga, c'était de toute petite du Club Dorothée.
Ah ouais, bah oui, les fameux premiers dessins animés qu'on voyait. Hein.
Dont Ségolène voilà. Royal n'était vraiment pas contente. Elle avait fait la colère du bébé zapper où elle s'escrimait contre les dessins animés japonais en disant qu'ils étaient violents et stupides, ce qui n'était pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait beaucoup de choses très créatives.
Donc ça commençait comme ça.
Et ça, je trouve qu'on est plus stable, nous, la génération Dragon Moselle, que la génération Bob l'éponge.
Et un beau bas âge.
Voilà.
Donc il y a d'abord les dessins animés japonais, ensuite le manga.
J'ai connu en fait Death Note, un manga animé.
Ouais.
Et j'ai vu qu'il y avait les mangas papier où c'est beaucoup plus expliqué. Et c'est pas du tout comme Dragon Ball Z, c'est un jeune homme qui trouve un cahier de la mort en fait. Et il se rend compte que quand il écrit le nom et le prénom d'une personne, donc il connaît le visage, elle meurt dans les 10 minutes qui suivent.
Mmh.
Et il s'en sert pour tuer des assassins, en fait.
Oh, ça va, la morale est plutôt bonne.
Oui, mais
il tue pas les innocents.
Écoutez, on fait pas de l'auto-justice, Vanessa,
il tue des
quand
assassins.
Même. On se rend pas justice à soi-même, qu'est-ce que vous dites?
Non, mais il tue pas des innocents, donc.
Non.
Ouais. Il tue des assassins dont la justice, en fait, les a libérés et n'a pas fait,
pas fait son boulot.
Voilà.
Et vous ne lisez que cette série, Sophie, ou vous lisez beaucoup d'autres mangas?
Non, j'ai lu Sword Art Online aussi. Hein.
Ouais. On ne connaît pas.
Voilà, en fait, c'est des adolescents qui sont coincés dans un jeu vidéo.
Mmh.
Et s'ils meurent dans le jeu vidéo, ils meurent dans la vraie vie.
D'accord. Ça n'a pas été adapté au cinéma, ça, d'ailleurs? Il n'y a
oui.
pas longtemps?
En manga, justement, un manga animé.
D'accord. Le manga, on va en parler un petit peu quand même, Benoît, c'est aussi une autre façon de penser et de voir la bande dessinée aujourd'hui?
En fait, le manga, c'est la bande dessinée japonaise. Une autre façon, oui, parce que, évidemment, c'est beaucoup plus dense, la pagination est beaucoup plus forte, ça, le récit se développe sur des centaines de pages, c'est souvent des très longues sagas, ça peut faire plus de 10 épisodes, donc de 180-200 pages. Et c'est vrai que Vanessa, j'oublie le prénom.
Sophie
le rappelait. Le succès du manga repose en partie sur le fait qu'on a été préparé. Notre génération, qui a entre disons 30 et peut-être 45 ans aujourd'hui, par la diffusion de nombreux dessins animés. Ça a commencé avec Goldorak, Albator, ça s'est poursuivi jusqu'à effectivement Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, etc. etc. Et les Japonais, en fait, c'est un peu étonnant, ils sont des insulaires. On pourrait croire qu'ils sont dans une politique d'expansion et de conquête du monde avec leur manga. En fait, pas du tout. C'est vraiment le hasard qui a voulu que des producteurs français veuillent aller au Japon vendre des
saugrenus.
Non, ils voulaient vendre des matchs de foot. Et sur place, ils n'ont pas eu un énorme succès, mais ils ont vu qu'il y avait des dessins animés apparemment que les Japonais ne vendaient pas cher, parce qu'ils n'imaginaient pas en insulaire que ça puisse intéresser des gens à l'extérieur de l'archipel. Et donc, c'est comme ça, en fait, que les dessins animés japonais, qui sont souvent des adaptations de bandes dessinées, par exemple, Goldorak, c'est une série qui s'appelait Granditzer, et en fait, Alcor... Petite parenthèse, Alcor est le personnage principal en fait du manga, de la BD. Et Goldorak, c'est un peu ce qu'on appelle pour une série télé un spin-off en fait,
un personnage secondaire.
Et chez nous, la série pilier, on va dire, où Alcor est le héros, n'est pas connu.
Voilà. Merci beaucoup Sophie d'être venue nous parler manga ce soir sur France Bleu. On va quitter les Bouches-du-Rhône pour Strasbourg. Christian est avec nous. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Ça y est, bienvenue sur France Bleu. On va parler budget un peu. C'est important parce que ça coûte cher aussi la bande dessinée.
Ben oui, parce que bon, moi j'ai commencé la BD en lisant Boule et Bill, des choses comme ça. Après, je suis passé à Franquin, qui a un autre spectacle. Et puis je suis tombé sur des, entre temps j'avais lu Tintin. Et puis à un moment donné, je m'étais dit, allez, pour mes 20 ans, je vais me faire plaisir, je vais me faire la collection complète des Tintins. Donc j'ai acheté tous les Tintins. Et j'ai commencé après avec une autre collection qui me tenait à cœur, c'était les Alix. Et puis j'ai enchaîné sur les Black et Mortimer, etc. Et au bout d'un moment, ça fait un budget, quoi. Parce que il y en a plein d'autres que j'aurais aimé acheter, moi, des collections.
Vous avez combien de BD aujourd'hui, Christian, à peu près?
J'en ai pas tant que ça. Je dois en avoir 150, pas plus, quoi.
Ouais, quand même, c'est pas mal, hein.
Non, même pas, parce que... Non, je vous dis, il y a que tous les Alix, tous les Tintin, tous les Black et Mortimer.
Alors, après, Tintin et Alix ne sont pas très chers, hein. Ils sont à 10,95 €.
Moi, je les paye un peu plus, visiblement.
Ah bon?
À l'époque, les prix étaient peut-être fluctuants, ce qui est plus le cas aujourd'hui, non? Pas.
Non, je les ai achetés récemment, en plus, au fur et à mesure. Et ben, j'ai assis, j'ai pas toujours la notion des prix, pour que ce soit 10 ou 12, pour moi, quelque part, c'est pareil.
Dire 10 ou 12, c'est une chose, mais 20, 22 euros, parce que souvent, c'est plutôt le prix d'une bande dessinée, ça. Benoît, comment on explique ces changements, ces différences de prix?
D'abord, une bande dessinée, si elle est imprimée en couleur, il y a des coûts de fabrication qui sont beaucoup plus importants qu'un livre noir et blanc comme un roman, hein, qui est souvent sur du papier qui n'est pas du papier glacé ou du papier de qualité comme celui d'une bande dessinée, qui est le même papier qu'utilisent les éditeurs de livres d'art, en fait. Donc, il y a des coûts de fabrication énormes. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, le niveau de vente moyenne a plutôt baissé. On est à 3000 exemplaires, donc je vous laisse imaginer quand il faut imprimer des albums en couleur à, disons, 4 ou 5 000 exemplaires pour une espérance de vente de 3 000, la marge n'est pas énorme.
Mais genre Tintin, l'éditeur, qui est beaucoup moins cher, c'est parce qu'on sait que Tintin, ça va se vendre.
C'est des millions et des millions. C'est presque 270 ou 280 millions d'albums.
Et c'est malin, l'idée de la série, finalement. On est sûr de fidéliser un lecteur quand on démarre une série. On n'est pas sûr que ça marche, mais en tout cas, là, on voit bien Christian, il a voulu acheter la série complète.
Alors, la série, elle marche si elle s'installe sur la durée. Donc, il faut attendre en général le 3 ou 4e épisode. Donc, il faut quand même que l'auteur et l'éditeur se soient beaucoup investis pour que les choses s'installent et que le lectorat découvre la série. Mais aujourd'hui, c'est difficile de lancer une série.
Deux, trois séries comme Le Triangle Secret, je ne sais pas si vous
connaissez. Oui, bien sûr.
Etc. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, je ne savais pas dans quoi je m'engageais quand j'ai commencé à les acheter, quoi.
C'est un peu la surprise, c'est aussi les jolies surprises.
Jolies surprises, oui, mais qui, au final et tout, représentent un coût. Alors, évidemment, on n'achète pas ça tout en une fois, mais bon, quand, en même temps, vous avez un Alix, un Alix Sénateur qui sort, Black et Mortimer, un Triangle Secret et tout, ça vous en fait 4 ou 5 dans l'année et tout, certes.
Vraie question à vous poser, vous qui aimez la BD, qui en achetez régulièrement. Est-ce qu'une fois que vous l'avez lue, vous y retournez de temps en temps? Vous reprenez une BD de temps en temps?
Mais évidemment, je les relis tout le temps, moi.
Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir.
Mais évidemment, je les relis, mais de la même manière que je relis tous les livres que j'ai achetés et tous les romans, etc. Certains livres des connus politiques qui datent et qui n'ont plus aucune actualité, plus aucun intérêt, mais qui me rappellent des souvenirs. Mais moi, les romans et tout, ça n'a peut-être rien à voir, mais un roman comme Le Seigneur des Anneaux, je l'aurais lu tous les 3 ans.
Donc là, par exemple, imaginons revendre une série BD pour en acheter une autre, c'est pas possible pour vous?
Ah, mais c'est inenvisageable.
Ah, d'accord. Je disais tout à l'heure, hein, c'est sacrilège, on ne revend pas les bandes dessinées. Vous me le confirmez ce soir, Christian. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu nous parler aussi argent, budget, parce que c'est un budget, effectivement, quand on a envie d'avoir des séries entières de bandes dessinées. On continue de parler de la BD, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous ce soir sur France Bleu avec vos témoignages jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous êtes fan des vieux comics et des super-héros, ou alors vous ne lisez que des BD inconnus mais qui méritent d'être connus? Eh bien, racontez-nous votre rapport à la bande dessinée. La place des femmes, j'espère en parler dans la BD, que ce soit du côté des lecteurs ou des auteurs, des héroïnes aussi. Et puis, il y a parfois des histoires plus personnelles liées à la bande dessinée. Votre première BD, la première que vous vous êtes achetée tout seul comme un grand, la collection où vous avez commencé, qui continue. C'est très ouvert ce soir. Place à tous les amateurs de bande dessinée. dessinée au 0810 055 056. Et nous partons maintenant chez Alain en Gironde. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir Vanessa.
Vous êtes un passionné des BD des années 60-70, hein, c'est vraiment ça.
Par exemple, Alix, je pense, c'est Pomme et Teddy, de François Grenlas, Le Chevalier Ardent. J'aime tous ces surtout ceux qui un rapport avec l'Antiquité puis le Moyen-Âge.
Ah oui, c'est très précis, là, Benoît, les choix d'Alain.
Oui, alors Alix, c'est une série qui a été créée en 1948, donc elle va fêter ses 70 ans l'année prochaine, par Jacques Martin, qui n'a rien à voir avec le Jacques Martin de la télévision, qui est devenu l'un des assistants d'Hergé. Il a notamment travaillé sur l'épisode L'affaire Tournesol. Et Jacques Martin avait aussi créé un personnage contemporain qui s'appelait Le Franc, une série médiévale que vous devez connaître, Alain, qui s'appelle Gênes.
Gênes, oui, je crois que... je sais pas, l'auteur, c'est Peters, non ?
Players. Jean Players, oui.
Et Players, je l'avais vu, je l'avais rencontré, on a échangé quelques mots, au un salon de Pessac.
D'accord.
D'où l'importance des salons, de pouvoir rencontrer les auteurs, les illustrateurs,
bien
c'est
sûr.
Vrai. Et en plus, pour en avoir fait quelques-uns, en n'étant pas une grande amatrice de BD, mais je trouve qu'ils passent beaucoup de temps à discuter, à échanger.
Oui, c'est vraiment... Enfin, c'est mieux que ça se passe comme ça, parce que parfois, il y a des séances de dédicaces où les pauvres doivent vraiment... beaucoup dessiné, ils n'ont pas vraiment le temps de lever la tête, mais quand c'est un vrai moment de rencontre, c'est profitable pour le lecteur et pour l'auteur, parce qu'il y a un vrai échange.
Et vous l'avez rencontré, Jacques Martin, d'ailleurs, Alain, je le vois sur votre fiche.
Oui, dans une grande librairie.
Oui. Bon,
j'en ai rencontré d'autres. J'avais même rencontré le fameux dessinateur là, de... Comment ça s'appelle de Pierre-Nicolas Pelos.
Ah oui.
Qui m'avait dédicacé. Et puis j'avais rencontré aussi Baudemort.
Oui, qui était aussi un assistant d'Hergé, qui a notamment dessiné la fusée lunaire dans Objectif Lune.
Et alors, Baudemort avait fait son, comme j'aime bien dessiner aussi, sa caricature. Ça lui avait d'ailleurs fait énormément plaisir.
Il avait des grosses lunettes, un nez assez rond et des grosses moustaches. Il était très grand, il faisait presque 2 mètres.
Ah oui, un sacré personnage, ouais. Mais Alain, vous êtes resté un peu sur cette période-là ou aujourd'hui, quand même, vous intéressez à ce qui se passe?
C'est très rare quand je... Bon, des fois, quand je vais... Il y a un au centre... Bon, je ne vais pas le nommer, là.
Chez un libraire.
Merci, à la maison chez Édouard. Et il y a des rayons de bande dessinée. Je regarde de temps en temps, j'affouillette. Mais voyez, par exemple, pour Alix, depuis que Jacques Martin ne le faisait plus... Je n'en ai plus acheté.
Alors je vous recommande deux reprises qui sont disponibles, notamment celle de Marc Jailloux qui vient de publier chez Casterman, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça.
Ça tombe bien.
Un album qui va publier un album cette année qui s'appellera Les Gladiateurs. Et il y a aussi une série qui, si vous avez aimé la série Rome, la série télévisée Rome de HBO, qui s'appelle Alix Senator, où on retrouve Alix... plus tard, il a une quarantaine d'années et il est devenu sénateur sous Auguste.
Merci Alain d'être venu nous raconter votre passion pour la BD des années 70 et on va être un peu plus contemporain maintenant avec Jean qui nous appelle de Nice. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir Vanessa.
C'est
bonsoir.
Ça qui est génial avec la BD, c'est qu'on peut être aussi bien dans les grands classiques que dans des BD vraiment actuelles. Et vous, c'est une BD actuelle dont vous voulez nous parler?
Eh bien oui, c'est une merveilleuse BD. Pédagogique parce que ça traite du sida quand une jeune fille et un jeune couple, et donc pour gérer tout ça, gérer le couple, dédramatiser, mais elle est merveilleuse.
Elle s'appelle Pilule Bleue, hein, vous l'avez pas nommé.
C'est un roman graphique autobiographique, c'est vraiment ce qu'a vécu l'auteur Frédéric Peters. Ah. C'est paru chez Atrabile, un éditeur suisse.
Oui, Atrabile. Oui.
Et c'est vrai, vous avez raison Jean, c'est à la fois une bande dessinée très romantique et très... très captivante et où on apprend beaucoup de choses sur les moyens d'éviter la transmission au quotidien et de vivre aussi en vivant avec cette maladie.
Pourquoi on appelle ça un roman graphique et pas une bande dessinée ?
Alors bon, moi je trouve que roman graphique c'est un peu un terme de marketing, mais il nous vient des États-Unis, des années 70, et il désigne en fait des bandes dessinées qui paraissent au format des romans, en noir et blanc, avec une pagination en général de plus de 150 pages. C'est le cas de Pilule Bleue qui, Alain, je crois, fait plus de 200 pages, hein, il me semble.
À peu près.
Oui, c'est Jean, c'est pour ça.
Et c'est en noir et blanc, oui. Avec un très beau dessin très expressif.
Mais oui. Comment vous l'avez découvert, Jean, cette BD, par exemple? Vous êtes un fervent amateur de librairie, vous vous promenez, vous avez été conseillé?
C'est une parente qui me l'a conseillé pour des proches pour leur offrir, et c'est vrai que ça leur a apporté énormément.
Bah c'est bien d'avoir des jolies découvertes comme ça, et puis surtout un côté pédagogique, un côté où on peut parler de...
C'est pas le but de cette BD, c'est comme un film, hein, mais évidemment on y apprend beaucoup de choses.
Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut tout dire finalement dans la bande dessinée, il n'y a pas de tabou dans la BD.
La seule limite c'est l'inspiration des auteurs, c'est vraiment la seule limite aujourd'hui d'une bande dessinée.
Mais qu'est-ce qui marche par exemple? Est-ce qu'il y a des tendances en bande dessinée en ce moment, genre les 5 dernières années?
Bah, les grands classiques continuent évidemment de beaucoup se vendre, vous l'avez dit, mais il y a plusieurs phénomènes. Il y a le manga aussi qui porte très fort les ventes. Et puis, il y a des nouvelles séries jeunesse. Bon, il y a eu Titeuf il y a quelques années. Il y a maintenant les Carnets de cerises, les Légendaires, qui sont des séries qui touchent des nouveaux lecteurs, des nouveaux publics, qui sont vraiment des séries très intéressantes. Et évidemment, la bande dessinée alternative qui était vraiment underground, pour reprendre le terme d'éditeur des années 2000, qui depuis sont ravisés, parce qu'aujourd'hui, ils éditent les auteurs qu'ils fustigeaient à l'époque. Mais bon, cette bande dessinée underground, elle est devenue centrale, parce que Riyad Satouf, Marjane Satrapi, l'auteur de Persepolis, qui a été adapté au cinéma et primé à Cannes, aujourd'hui, c'est des milliers d'exemplaires à travers le monde.
Et puis, on voit apparaître aussi beaucoup de BD estampillés pour les filles, enfin pour les jeunes femmes, les jeunes...
Oui, c'était peut-être hors antenne, mais vous parliez de Margot Motin tout à l'heure. Il y a Pénélope Bagieu, évidemment. Il y a beaucoup de...
C'est mes copines. Hein.
Des blogueuses, en fait. Hein, elles ont débuté en fait, sur Internet.
Ouais. Qui est aussi dans la presse féminine.
Et ça a été un moyen, je pense, aussi de toucher un plus large public que les albums, qui, évidemment, s'adresse à un lecteur qui va faire la démarche d'acheter un livre. Alors que vous achetez un magazine féminin, vous tombez sur une BD.
Voilà. Mais on est contente, je le dis au pluriel, de se dire, tiens, la petite BD que j'aimais bien dans Elle,
oui,
je la retrouve en vrai et la garder chez moi à la maison. C'est vrai que c'est pas mal.
Pénélope Bagieu avait fait un très beau succès avec deux livres qui s'appellent Les culottés, où elle raconte le destin de plusieurs grandes figures oubliées de l'histoire, qui sont des femmes. Et dans le même registre, si vous aimez apprendre des choses, puisque vous parlez de bande dessinée pédagogique, il y a eu quelques mois une bande dessinée une dessinatrice s'appelle Catel, qui travaille avec José Louis Boquet et qui vient de faire une biographie que je vous recommande sur Joséphine Baker.
Ah oui, un très beau livre. Ouais. Merci beaucoup Jean d'être venu nous parler ce soir de cette BD Pilule Bleue, et nous on continue bien sûr de parler bande dessinée. C'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Ah, les vérandas ont eu un petit peu de mal à se fermer et à s'ouvrir visiblement. Retour à nos discussions, on parle de bande dessinée ce soir. Si vous êtes fan de BD depuis peu ou depuis toujours, qui sont vos héros d'hier et d'aujourd'hui? Est-ce que la bande dessinée a changé? Est-ce que vous aussi vos choix ont changé? Vous avez la parole sur France Bleu au 0810 055 056. C'est Benoît Mouchard qui est notre grand témoin en charge de la bande dessinée chez Casterman et puis ancien du Festival d'Angoulême aussi, grosse expérience. Dans le milieu, on va tout de suite accueillir Laura en Auvergne. Bonsoir Laura.
Oui, bonsoir.
Vous achetez environ une BD par semaine?
C'est ça.
Alors quel type de BD vous aimez et vous achetez?
Plutôt les BD un peu humoristiques, comme Titeuf, Gaston Lagaffe, les choses comme ça.
Ah, vous avez envie de rigoler vous en fait?
Ah oui, j'aime bien tout ce qui est rigolo moi.
Ouais. Et vous êtes fidèle à un personnage ou c'est selon vos envies?
Bon, ça dépend des semaines. Mais c'est vrai que je préfère surtout Titeuf quand même.
Ouais. Il y en a combien des Titeuf aujourd'hui? Vous arrivez à en acheter un par semaine?
Ouais, mais c'est vrai qu'il doit m'en manquer deux, je crois, sur toute la collection encore.
Il y a une quinzaine, je pense, d'albums de Titeuf maintenant, et c'est une série qui a été une des premières séries pour enfants à parler vraiment des enfants d'aujourd'hui. Boulet-Bille est une grande série, mais elle parle quand même d'une famille avec la maman qui reste au foyer, le
bien
papa qui...
Voilà. Oui.
Titeuf, les parents divorcent, les parents sont au chômage, et il se passe des choses dans la cour de récréation. On a beaucoup focalisé sur le fait que Titeuf parle beaucoup du zizi sexuel, mais il parle pas que de ça, il a plein de préoccupations.
Mais ça a été génial d'ailleurs, juste le zizi sexuel à un moment donné, pour pouvoir en parler parler avec les enfants. Absolument. Ça a été un super support.
Il y a un guide et puis une très belle expo aussi à la Villette. Et Zep est un auteur qui, lorsqu'il dessine Titeuf, a les pieds qui se mettent vraiment dans la position d'un enfant. Et il est complète. Enfin, c'est vraiment une projection. On parlait tout à l'heure du fait que c'est difficile de reprendre un personnage. C'est vraiment une projection de lui-même. Zep est un des auteurs humainement les plus extraordinaires de ce milieu.
Ah oui.
C'est une personne lumineuse, généreuse. Je n'ai que de belles choses à dire sur lui.
Et Laurent, est-ce que vous avez envie de partir sur des histoires peut-être un peu plus sombres, des choses un peu plus historiques aussi, ou est-ce que vraiment ça c'est votre domaine à vous, c'est l'humour, c'est les choses qui font du bien, qui vous permettent de vous évader un peu?
Ah bah après, pour tout ce qui est un peu plus sombre, comme vous dites là, je partirai plus dans des romans.
Ah et pas sur la bande dessinée. Vous n'avez pas essayé le roman BD alors?
Ah non, j'ai pas essayé.
Ça vous aurait peut-être le coup de combiner vos deux envies, non?
Oui, on pourrait aussi.
Oh bah ouais, faites-vous conseiller. Dites-leur ce que vous aimez, dites-leur ce dont vous avez envie. Il y aura forcément quelqu'un qui va vous conseiller.
Ah bah oui.
Ça vaudrait le coup d'essayer, d'accord?
D'accord.
Merci Laura d'être venue nous parler de ce que vous aimez, de ce que vous lisez. Et une BD par semaine, je pense que les auteurs peuvent vous dire merci.
Oui,
éditeurs aussi. Lucille est avec nous en Saône-et-Loire. Bonsoir Lucille.
Oui, bonsoir.
Ça aurait été bizarre de faire une émission sur la BD sans parler d'Astérix quand même. Vous êtes une grande, grande fan d'Astérix. Vous avez, je crois, toute la collection?
Oui, c'est ça.
Ça a commencé comment, votre histoire avec Astérix?
Ouh là là, ben, ça a commencé... Bon, déjà, la BD, j'ai connu dans le programme télé de mes parents, qui à l'époque s'appelait Bonne Soirée.
Ouais.
Magazine belge.
Et on avait les bandes dessinées de Sylvie.
Oui.
Donc j'ai commencé par ça. Après, il y a eu Boulet-Bille qui est apparu aussi. Et j'ai continué. Et puis un jour, je suis arrivée en vacances chez un de mes oncles qui, un jour de pluie, a sorti sa collection d'Astérix.
C'est bien les jours de pluie, rien que pour ça.
Ah mais c'est génial. Ah mais j'adore. Et pour le coup, ben, on a commencé à lire Astérix et je me suis pris au jeu. Et Astérix, eh ben, c'est resté Astérix. C'est tellement... et puis, c'est notre France. Voilà, il faut se battre pour garder nos valeurs, pour etc. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai toujours suivi et je suis encore.
C'est-à-dire que vous avez récupéré les Astérix de votre oncle ou vous les avez rachetés pour vous?
Ah, bah non, il les a gardés. On ne vend pas, on ne donne pas.
On les garde.
Ah oui, on les garde, ça c'est sûr, précieusement.
Et moi j'aimerais savoir...
Je me suis fait ma collection moi-même.
Moi j'aimerais savoir, Benoît Mouchard, il n'y a pas de hasard si Astérix cartonne autant, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi ça marche autant Astérix?
C'est un chef-d'œuvre Astérix, c'est très curieux. Vous connaissez l'histoire de la naissance d'Astérix, en fait ils ont créé un journal, Uderzo, Goscinny et d'autres dessinateurs et d'autres scénaristes comme Charlier notamment. Et ils avaient prévu dans le numéro 0, qui est le numéro qu'on prépare avant de lancer un journal, de faire une bande dessinée adaptée du roman de Renard. Et puis au moment où ils allaient lancer le journal, ils ont appris qu'il y avait déjà une bande dessinée qui existait adaptée du roman de Renard. Et donc à l'époque, Uderzo vivait dans un HLM à Bobigny, on est en 59. Ils sont sur le balcon et ils n'ont aucune idée, mais vraiment aucune idée. Et en fait, ils vont faire ce qui leur plaît et ils vont discuter sur le balcon et ils vont décider comme ça, mais vraiment en une matinée, en une après-midi, de créer Astérix, qui au départ était le contre-pied de tout ce qui était bande dessinée classique. Normalement, la bande dessinée de cette époque, des années 50, le héros est vertueux, il est souvent accompagné d'un animal de compagnie, etc. etc. Or,
et il est grand, il est fort, musclé.
Il est beau, voilà. Alors Astérix est rusé, intelligent, mais il est petit. Et Uderzo, qui était assez têtu, et qui est toujours têtu, qui va avoir 90 ans cette année, qui est aussi une force de la nature et un homme extraordinaire, avait envie de mettre en scène un personnage plus rond. Et donc il a créé Obélix presque comme un personnage. Si vous relisez la première page d'Astérix, qui est assez maladroite, par rapport à ce qu'on connaît par la suite, vous verrez qu'Obélix, il parle pas, en fait. Et c'est quand Goscinny, le scénariste, a vu ce personnage, il s'est dit, je vais en faire quelque chose. Et il a fait la même chose plus tard pour Idéfix, qui apparaît en personnage, pas en personnage, il est un élément du décor d'un album qui s'appelle le Tour de Gaulle, et Uderzo va faire suivre Astérix Obélix par ce petit chien qui va être baptisé par les lecteurs. Ils vont lancer un concours, et c'est les lecteurs qui ont trouvé le nom d'Idéfix.
Et Lucille, est-ce que vous avez un album d'Astérix préféré, vraiment celui où vous dites celui-là il est vraiment génial?
Oui, Le Domaine des Dieux.
Je vous comprends.
Ah ouais, qu'est-ce qu'il a de particulier, Lucille?
Je sais pas, c'est géant, et puis envoyer ce barde pour faire fuir tout le monde, c'est celui-là, et en deuxième, Le Grand Fossé.
Ah oui, qui est le premier album qu'Uderzo a réalisé seul après la mort de Goscinny, donc au début des années 80. Moi, mes préférés, si je peux me permettre, c'est Astérix chez les Helvètes et Astérix en Corse.
En Corse,
les décors sont vraiment... Uderzo est un immense... On le dit pas assez, Uderzo est un grand dessinateur, un grand directeur d'acteurs. Ces personnages, on a faim quand on lit Astérix, on a envie de cogner.
On a faim de quoi? De sanglier ou de...
On
non,
a faim de sanglier, on veut boire de la cervoise, on est gourmand quand on lit Astérix, c'est prodigieux. Et dans Astérix en Corse, ils ont fait des repérages sur place, et ça se sent, on voit vraiment ont senti ce que Uderzo a dessiné.
Merci beaucoup Lucille, vivement la prochaine journée de pluie alors pour se replonger dedans.
Et puis il y a un prochain Astérix qui sort à la rentrée.
D'accord, ben, on le note, hein. Celui-là pour Lucille, je pense que le rendez-vous sera pris. Bonne soirée Lucille, merci d'avoir été avec nous, et dans un instant on va parler des héroïnes de bande dessinée avec Eric qui nous écoute depuis la Belgique.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on parle de bande dessinée ce soir dans On se dit tout, la BD que vous connaissez sur le bout des doigts, que vous adorez, que vous dévorez chez vous. C'est bien simple, c'est plus une maison, c'est une BDTech. Les BD, les mangas, les comics, les vieux titres, les classiques, les tout récents, les super-héros. Parlez-nous de votre passion pour la BD, si vous la lisez, si vous êtes dessinateur, auteur, illustrateur. Et puis on parle aussi de plus en plus des femmes dans la BD, c'est peut-être le moment de nous rejoindre. 0810 055 056. C'est Benoît Mouchard en charge de la BD chez Casterman qui est notre grand témoin. Et justement, on va parler des femmes et des héroïnes de bande dessinée avec Eric en Belgique. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir Vanessa, bonsoir votre invité.
Enfin, on parle des femmes, parce que dites donc, entre Achille Talon, Michel Vaillant, Astérix et tous les autres, là, c'était un peu couillu quand même. Heureusement que vous êtes là.
Oui, on ne parle que des hommes, pourtant il y a de très jolies filles dans la BD.
Ah, alors qui sont les héroïnes de bande dessinée selon vous, Eric?
En tant que Belge, évidemment, j'ai évidemment lu tous les Astérix, tous les Tintin, tous les Lucky Luke, les Tuniques Bleues et tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi Natacha.
L'hôtesse de l'air.
L'hôtesse de l'air, qu'il ne faut pas oublier. J'avais aussi un faible quand j'étais un peu plus jeune pour Yoko Tsuno, qui avait des aventures dans l'espace.
Et oui, elle est électronicienne, elle était créée par Roger Leloup, qui était aussi un assistant d'Hergé.
Oui, voilà, oui, très juste, oui.
Qui vit toujours et qui publie toujours des bandes dessinées du Yoko Tsuno chez Dupuis.
Ah, je ne sais pas, je ne vais pas dire que j'ai abandonné la bande dessinée, parce que je lis toujours régulièrement, je crois que j'ai à peu près 5 ou 600 albums à la maison, dans toutes les séries, que ça passe par Gaston Lagaffe, Pierre Tombal, avec l'humour noir de
Hardy et Colin,
du cimetière. Mais j'aime bien aussi. Je vois les héroïnes sont quand même toujours bien sexy et tout. Je crois
oui, mais c'est ce que j'allais dire un petit peu. On en est où de la représentation de la femme dans la bande dessinée, Benoît Mouchard? Parce que souvent, elles sont dans des combinaisons moulantes avec des seins énormes qui débordent partout.
Ça, c'est plutôt pour
Wonder Woman, quoi,
les
en
comics,
fait.
Hein. Oui. Oh, bah écoutez, il y a une héroïne française qui s'appelle Adèle Blanc-Sec, qui a été créée par Tardy, qui est une femme de caractère, qui est auteure de romans feuilletons avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, qui a été adaptée au cinéma par Luc Besson. Il y a eu quand même pas mal d'héroïnes. Effectivement, il y a des héroïnes classiques comme Natacha ou Yoko Tsuno, mais plus récemment, il y a aussi des personnages qui ont été créés notamment par François Bourgeon dans des récits historiques comme... le nom m'échappe pour le moment, donc je suis désolé. Les Passagers du Vent, qui sont des personnages très forts et qui sont pas seulement... joli. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, Vanessa, il y a beaucoup d'auteurs ou d'auteureux, ou elle préfère qu'on dise autrice de
oui,
bande dessinée.
Évident,
donc,
oui.
Il y a
Mafalda, Agrippine.
Il y a Mafalda qui est,
bien sûr,
merci.
Ouais.
Mafalda est extraordinaire. Agrippine de Bretéché. Bah, Bretéché est une très, très grande dessinatrice, une très grande humoriste aussi. Et Kino, Mafalda, vous savez que Mafalda refuse de manger la soupe. Et vous savez que c'est une métaphore de la dictature, puisque Mafalda a été créée en Argentine pendant la dictature. Et en fait, quand Mafalda est obligée d'avaler sa soupe, c'était la manière que Kino, l'auteur, avait trouvé pour avoir un clin d'œil à ses lecteurs de cette dictature qu'ils sont obligés de subir. Et vous savez peut-être aussi que le dessinateur, donc créateur de Mafalda, Kino, on lui a laissé 24 heures pour quitter l'Argentine parce qu'il avait fait un dessin où il représentait un policier qui tenait une matraque, c'était dans les années 70.
À l'époque, oui, c'était pas pareil.
Et il disait, le policier disait, j'ai trouvé le meilleur moyen de faire changer à quelqu'un d'avis en 5 minutes. Et les policiers sont arrivés chez lui, enfin la police d'État, la police politique, ils lui ont dit, vous avez 24 heures pour quitter le pays, sinon vous êtes mort. Donc il s'est réfugié en Europe.
Et Eric, vous les aimez comment, vous, les héroïnes de bande dessinée? Plutôt sexy ou plutôt maligne, un peu comme Mafalda? On parlait tout à l'heure, même on pourrait parler de Bécassine, hein, qui est...
Oh bah oui, mais Bécassine,
elle est un peu bébête, mais bon, elle est pas...
Bécassine, évidemment, elle est un peu plus du genre, comment est-ce qu'on peut dire, avec mon accent belge, un peu plus du genre, un peu simple.
Oui.
Mais c'est toujours... le dessin est naturellement un peu plus vieillot. Mais le dessin est toujours beau, d'une manière ou d'une autre.
Oui, et puis elle fait partie un peu des icônes de la bande dessinée, quand même, Bécassine.
Et évidemment, je crois qu'en tant qu'homme, on a un petit faible pour Natacha ou un petit faible pour Yoko Tsuno, vu les formes du dessin, vu les formes de l'héroïne. Je ne sais même pas, si je ne me trompe pas, qu'on devrait avoir à peu près l'équivalent féminine de Torgal, quelque part. Je devrais demander à votre assistant.
Il me semble y a sa fille, au moins, à Torgal, qui est pas mal aussi. Hein.
Oui, mais je ne sais pas.
C'est Louve, c'est ça, la fille de Torgal.
En Belgique, quelque part, l'équivalent féminine de Torgal, bon, ok, mon Dieu, c'est... mais je crois que tout homme attend d'une manière ou d'une autre. Nous avons aussi, je ne sais pas si monsieur connaît à côté de vous, les blouses blanches,
les femmes en blanc,
d'infirmières, ou les oreilles rouges.
Alors, je voudrais quand même dire quelque chose à propos de l'absence de femmes dans la bande dessinée franco-belge. C'est que vous ne le savez peut-être pas, mais il existe en France toujours aujourd'hui une loi qui s'appelle la loi du 16 juillet 49, qui était une loi de protectionnisme, en fait, qui a été créée pour et par les éditeurs français contre les bandes dessinées américaines. Donc la représentation des femmes était très limitée, parce que la bande dessinée américaine, qui est une bande dessinée pour adultes depuis les origines, présentait beaucoup d'héroïnes, dans Flash Gordon, dans des bandes dessinées comme Terry et les Pirates, il y a des femmes très importantes qui ont des rôles, d'ailleurs qui ont influencé plus tard une série comme Corto Maltese. Mais cette loi, en fait, elle induisait que, par exemple, on ne pouvait pas représenter de personnages masqués, donc pas de personnages en slip, donc pas de Tarzan. Il y avait toute une série d'interdits.
Même, hein.
Et cette loi est toujours active. C'est une loi de censure, en fait, hein, qui n'est presque pas utilisée. Mais il y a quelques années, Riyad Satouf, dont on parlait tout à l'heure, a été convoqué au poste parce qu'il avait fait une bande dessinée autobiographique qui s'appelait Ma circoncision. Et il était suspecté de racisme, alors qu'en fait, il parlait de lui.
Carrément.
Voilà.
Merci, Eric, d'être venu témoigner ce soir. Et merci de nous écouter depuis la Belgique sur France Bleu. Le.fr, puisqu'on commence à parler des héroïnes un peu plantureuses avec Eric, on peut peut-être aller glisser vers la bande dessinée érotique, hein, pourquoi pas, il est 10h moins le quart, on a encore le temps d'en parler. Venez nous rejoindre et venez nous parler de bande dessinée, c'est surtout ça le plus important. 0810 055 056, vous avez la parole chaque soir jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et j'aime bien quand mes désirs sont désordres. Je trouve ça absolument génial. On parle de bande dessinée ce soir. Et puis je vous
quelle
ai dit.
Quelle maîtresse femme.
Voilà, on arrive à la fin. Si on peut glisser un peu sur la littérature et la bande dessinée érotique, allons-y. Ben, ça tombe bien. Giovanni est avec nous depuis Dijon. Bonsoir, Giovanni.
Oui, allô, je suis pas à Dijon actuellement, même si j'habite à Dijon. Je suis en voiture, là, mais je suis garé, vous inquiétez pas.
Bon, tout va bien. Donc, alors. On peut discuter tranquille, alors, Giovanni.
Oui, il n'y a pas de souci. Donc je voulais parler d'une bande dessinée qui s'appelle Fraises et Chocolat. Il y a eu deux volumes parce qu'on a, en fait on a beaucoup parlé donc de la femme dans la bande dessinée, mais c'était surtout des bandes dessinées qui étaient beaucoup, disons, du grand public, de la grande distribution, format le format 48 cc, 48 pages cartonné couleur. Et mais dans la bande dessinée indépendante, il y a aussi des femmes. Il y a beaucoup de femmes notamment qui sont auteurs. Et dans la bande dessinée indépendante, il y a beaucoup de bandes dessinées autobiographiques et il y a beaucoup d'autobiographies de femmes. Et il y a celle-là notamment, puisqu'on parlait de bande dessinée érotique. C'est une femme donc qui raconte ses aventures, notamment sa vie sexuelle en fait, en bande dessinée.
Alors j'ai regardé un tout petit peu vite fait sur Internet. C'est mignon, c'est érotique, mais c'est mignon quand même, Giovanni.
Oui, c'est assez. C'est pas vulgaire. Enfin, disons. Il y a quand même des moments explicites.
Très cru, même.
C'est pas de la pornographie. C'est pas fait pour forcément pour susciter une excitation ou inciter le lecteur à voilà. Mais c'est mais il y a quand même des moments explicites. Donc,
c'est une bande dessinée pleine de santé en fait. Hein, Aurélien Rita.
Pleine de santé. J'aime bien comment vous dites ça.
Effectivement, avec de la naïveté, de la poésie. Le titre, on va pas l'expliquer. Je pense qu'on va laisser aux auditeurs et aux auditrices un effort d'imagination pour imaginer ce qui peut prendre une couleur de fraise ou une couleur de chocolat après certaines choses.
Et petit blanc, passage d'un ange.
Et effectivement, elle a vraiment abordé d'une manière.
On n'a pas dit son nom.
Aurélien Horita,
ah ouais,
c'est un livre qui est paru aux Impressions Nouvelles au milieu des années 2000. Et Aurélien Horita poursuit actuellement son travail. Elle est en train de dessiner. C'est pas, pour le moment, c'est pas sexuel. La jeunesse d'un auteur qui s'appelle Benoît Peters, qui est notamment le scénariste des Cités Obscures, mais c'est aussi le biographe d'Hergé, de Jacques Derrida, de Paul Valéry. Et Benoît était un intellectuel précaire quand il était jeune et il faisait la cuisine dans des grandes familles bourgeoises. Et donc c'est ses débuts qu'Aurélia est en train de dessiner, à un moment où il était jeune écrivain, jeune scénariste de BD, mais où il vivait en faisant des grands plats.
Voilà. Et vous, Giovanni, j'ai l'impression que vous vous y connaissez bien dans la BD. C'est votre.
Oui, il a employé des termes qui sont vraiment du milieu.
Vous êtes du milieu, c'est ça,
etc. Ouais.
Oui, un petit peu. Ouais, on va dire que je suis un petit peu dans le milieu, on va dire.
On peut pas en savoir
là,
plus.
Actuellement, j'enseigne les arts plastiques, mais j'ai fait de la bande dessinée. J'ai jamais publié d'album à mon nom, mais j'ai fait beaucoup de bande dessinée en amateur, on va dire.
Et pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Ça s'est pas fait à un moment donné? C'était pas une envie vraiment? C'était compliqué? Ça coûte cher?
Eh ben, c'est plutôt que j'ai jamais vraiment osé. C'est ça, déjà. Et puis, mais en fait, là, je suis un petit peu dans une phase particulière parce que je vais peut-être quitter mon boulot et me lancer dans la bande dessinée. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
D'accord.
Est-ce que c'est facile? Tiens, j'en profite, Benoît Mouchard. Est-ce que c'est facile? J'imagine qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, des auteurs, des dessinateurs, de percer dans la bande dessinée aujourd'hui. On se dit avec Internet, le numérique, on peut se faire connaître.
C'est facile d'être publié.
C'est pas
facile d'être lu et d'être acheté. Donc, je disais, il y a 5000 albums qui paraissent par an. Donc, il faut vraiment être particulièrement original, particulièrement aussi fort dans son propos pour capter un lectorat. Être édité n'est pas très difficile. Si le projet est de qualité, il trouvera une maison d'édition. Par contre, percer l'est beaucoup plus. Et en vivre, parce que la bande dessinée, c'est très laborieux. Un auteur de bande dessinée, il y a bien sûr différents styles, mais globalement, c'est une année de travail. Vraiment, c'est un travail de moine bénédictin, que ce soit dans la bande dessinée indépendante ou dans la bande dessinée plus classique. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'autres activités. Or, aujourd'hui, il y a une enquête qui a été lancée il y a quelques temps par un organisme qui s'appelle les États généraux de la bande dessinée, et 71% des auteurs interrogés, qui sont assez nombreux, ils sont presque 1000 je crois, 71% déclarent être obligés d'avoir une autre activité. Presque 50% déclarent être en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, pas forcément évident.
Quand on parlait des différentes BD tout à l'heure, vous nous parliez des auteurs, des dessinateurs, parfois même il y en a qui font juste la couleur. on peut pas tout faire soi-même. C'est rare qu'on
alors,
fasse tout de A à Z.
Alors il y a des auteurs qui font tout eux-mêmes, si. Bien sûr. On parlait de des grands classiques. Hergé, quand il a commencé, il faisait tout seul. C'est plus tard qu'il a eu des assistants. Tardi, aujourd'hui, il travaille tout seul. Des auteurs comme Lewis Trondheim, comme Johann Svarr,
oui, donc d'accord, il y en a.
Marjane Satrapi n'ont pas forcément des. Aurélia Horita, dont on parlait, n'a pas d'assistant. Denis Bajram, qui fait de la bande dessinée de science-fiction réaliste, n'a pas d'assistant non plus. Non, c'est pas une obligation
d'accord.
du tout.
Moi, c'était pour savoir. Bon, Giovanni, on compte sur vous. Prochaine émission sur la BD. Vous êtes là, mais en tant qu'auteur cette fois-ci. On vous remercie, on vous embrasse, Giovanni.